Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers auditeurs de Canal Academy, bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages. Je vous propose aujourd'hui de poser notre regard sur un pays, la Roumanie. À travers le livre, la littérature, les revues littéraires éventuellement, et de le faire avec la complicité bienveillante de quelqu'un dont le regard sur la Roumanie est très particulier. À la fois direct, sur le vif, si j'ose dire, puisqu'il vit en Roumanie depuis de longues années, et avec un regard aussi distant car il est français et le reste. Quelqu'un dont, en outre, le regard est littéraire, puisqu'il est éditeur, et je suis donc très heureux d'accueillir aujourd'hui dans nos studios, pour cette conversation roumaine, Samuel Tastet. Samuel Tastet, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Samuel Tastet, vous êtes donc éditeur depuis 30 ans, c'est pas rien. Installé en Roumanie depuis 1990. Vous êtes revenu d'ailleurs en France depuis 2006, depuis très récemment. Et donc maintenant, en quelque sorte, vous avez un pied dans chaque pays. Un pied dans chaque pays, et ce qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui de bénéficier de l'un de ces passages éclairs à Paris, puisque vous êtes aujourd'hui dans nos murs, et je vous en remercie. Alors, votre maison d'édition s'appelle EST, c'est l'acronyme des éditions Samuel Tastet, c'est bien ça? Et c'est un beau nom vu de France, puisque finalement vous naviguez d'ouest en est, vous vivez à l'est, et donc vous êtes l'est. Et pas seulement géographiquement, mais probablement aussi dans l'esprit. Car je suppose qu'on ne s'installe pas comme ça, impunément, en Roumanie quand on est un éditeur français. Il faut quelque part un déclic. Quelque chose, une forme de fascination, vous allez nous expliquer laquelle. Et une fascination pour un pays complexe. Un pays qui est à la fois proche de nous, latin, par ce qu'on pourrait appeler sa romanité rurale, par sa langue, mais aussi éloigné de nous par, je dirais, cette capacité de résistance non violente que les Latins n'ont guère et qui lui vient du plus lointain de son histoire. Byzance, l'orthodoxie, le monachisme, et aussi de son histoire la plus récente, celle vécue sous la chape du communisme. Et puis, je ne voudrais pas oublier le troisième volet du triptyque roumain, enfin ce que j'appelle moi le triptyque roumain dans mon imaginaire à moi. Ce troisième volet, c'est la pincée d'extravagance qu'on attribue à la slavitude. Un terreau, en fait, idéal et fertile pour le surréalisme. Et donc, ça m'amène directement à ma première question, Samuel Tastet. Est-ce que, finalement, ce ne serait pas quand même cette pincée d'extravagance qui vous a le plus attiré dans le paysage roumain ? Et peut-être même poussé à vous y installer, je ne sais pas. Il me semble que dans vos choix éditoriaux, vous êtes résolument enraciné dans un terreau quand même surréaliste, ou du moins dans un terreau qui ne semble pas vraiment conformiste. Pas toujours, en tout cas. Certains de vos auteurs, pas tous, bien entendu, mais quelques-uns, en tous les cas, ne sont pas toujours dans l'ordre ce qu'on pourrait appeler la bienséance, entre guillemets seulement. Et peut-être au risque parfois même de choquer éventuellement. Alors, est-ce que ce ne serait pas un certain goût, finalement, pour l'insolence, un goût pour, même à la limite pour la provocation, qui vous aurait conduit à Bucarest et qui vous aurait conduit à y rester ? Je voudrais, Samuel Tastet, que vous nous disiez tout sur votre parcours et sur les raisons de votre attrait pour la Roumanie. Et puis, peut-être, est-ce que vous pouvez, par la même occasion, nous présenter brièvement votre maison d'édition, son histoire, son futur ? M'avez-vous confié l'intention de lancer éventuellement une nouvelle revue littéraire ? Ça serait peut-être bien d'en parler également, si vous voulez bien. Je vous en prie, Samuel Tastet.
Ouais, ça va être difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vais revenir à la question du déclic. Qu'est-ce qui a fait que je sois resté en Roumanie ? En septembre 90, je suis arrivé la première fois là-bas et de suite, j'ai senti quelque chose de différent. J'étais un peu fatigué de ce qui se passait en France, puisque j'étais éditeur en France. Quand je dis fatigué, je veux dire par là l'absence d'enthousiasme général. Et arrivé là-bas, j'ai découvert des personnes d'abord qui parlaient français, pour beaucoup, ou qui comprenaient. Ça a été un avantage pour moi énorme, puisque je ne connaissais pas un seul mot de la langue roumaine. Et j'ai vu en 15 jours la plupart des artistes bucarestois, puisque j'étais à Bucarest, aussi bien des poètes, des peintres, des écrivains, et je me suis senti un peu comme chez moi, je dirais, ce dont vous avez parlé ensuite à propos d'extravagance, on va y revenir. Et j'ai dit, là, il y a tout à faire dans ce pays. Je suis arrivé dans ce pays, je croyais que ce pays sortait d'une guerre. Enfin, sincèrement, il n'y avait rien dans ce pays, il n'y avait plus rien. C'était un pays vidé. D'ailleurs, j'ai même dit, et je le dis encore aujourd'hui, que Bucarest n'a plus d'âme. L'âme a été dévastée. Enfin, c'est très grave ce qui se passe, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais enfin bon. Ce sentiment, cette sensation plutôt d'un désespoir serein, je dirais, m'a beaucoup touché et m'a dit « je veux faire des choses ici ». Et en plus, effectivement, la maison d'édition s'appelle Est, mais elle s'était appelée Est bien avant que j'arrive en Roumanie et je ne savais pas que je partirais à l'Est. Et effectivement, il y avait quelque chose d'un peu prémonitoire là-dedans. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Je n'ai aucune filiation avec la Roumanie, je veux dire généalogique. Je ne connaissais absolument personne là-bas, hormis une poétesse, Mariana Marin, que j'avais publiée en 89, puisqu'elle résistait, elle, réellement, au régime de Ceausescu. Et j'avais trouvé d'abord ses poèmes magnifiques, et je l'ai publié pour cette raison. Et je l'ai rencontrée ensuite en juin 90 à Paris, lorsqu'elle est venue, je ne savais même pas qu'elle était là. Et de fil en aiguille, elle m'a invité en septembre 90 là-bas, j'y suis arrivé, j'y suis resté. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans votre question. L'extravagance, parlons de cela. Oui, je comprends quand vous dites, quand on voit mon catalogue, mes publications, elles peuvent paraître provocatrices, mais chez moi, il y a peut-être un côté provocateur, mais je crois que ce n'est pas une provocation pour de la provocation. Je crois que les choses qui dérangent, finalement, finissent par bouleverser le moment et ensuite être acquises comme quelque chose d'important. Et je crois qu'il faut avoir l'audace, c'est ça, c'est ce qui compte dans la vie, c'est pas spécial à la littérature. L'audace, la nouveauté dérange toujours un peu. À tous les niveaux. Et bon, c'est vrai que j'ai peut-être ce besoin en édition de tendre vers cette démarche. Si c'est pour éditer des ouvrages déjà convaincus, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Il faut se battre. Je crois que c'est important. Il faut conquérir des lecteurs. Il faut donner à lire des choses qui peut-être, au premier abord, n'ont pas l'air très compréhensibles. Vous parliez de surréalisme, des choses comme ça. Si on se rappelle dans les années 20 ou les années 10, avec le 15, avec le dadaïsme, bon, c'était quelque chose qui dérangeait, qui n'était pas dans la ligne normale. Mais aujourd'hui, on lit ça à peu près normalement.
Dans l'histoire.
Dans l'histoire, voilà. C'est vrai qu'aussi je ne connaissais rien de la Roumanie quand je suis arrivé là-bas. J'étais même, vous faire une confidence petite, j'étais même l'une de ces personnes qui confondait Bucarest et Budapest. Hein. Je veux dire, c'était au début. Oui, c'est pour vous dire que les pays de l'Est, j'étais jamais rentré dans un pays de l'Est sous le régime. J'ai manqué d'y aller une époque, mais ça ne s'est pas fait. Et bon, j'ai très vite corrigé le tir, j'ai su que j'étais à Bucarest. Mais la Roumanie, je ne savais rien, j'ai tout appris là-bas. J'ai appris énormément de choses et j'ai aussi découvert, bien que je le savais avant, que d'énormes, de très grands poètes roumains et de peintres sont venus s'installer en France ensuite, dans les années 20-30, et ont apporté énormément à la culture française. Alors ça m'a bouleversé, si vous voulez, et puis je me suis dit, ce pays tellement francophone, on va en parler tout à l'heure, si je pouvais faire un pont, créer un pont, c'est un peu prétentieux, mais oui, un pont d'échange. Entre la France et la Roumanie, retrouver cela.
C'est prétentieux, c'est nécessaire.
Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire et ça l'est encore. Et il faut encore continuer. C'est un combat qui mérite, je crois, parce que c'est un pays qui a beaucoup de choses.
Bien. Eh bien, écoutez, on va essayer d'aller encore un peu plus loin maintenant dans ce débat. Samuel Tastet, vous êtes éditeur, donc ça veut dire que le livre, c'est votre métier, c'est votre passion, c'est votre raison d'être, probablement. Même si je me suis laissé dire que vous étiez aussi un homme d'image. Mais alors, pour le livre, comment est-ce que le public romain reçoit le livre ? Je veux dire par là, que représente le livre dans l'imaginaire collectif de ce pays ? Je voudrais vous citer Paul Celan, célèbre poète roumain qui était installé lui en France, et qui disait à propos de la Bucovine, cette belle province roumaine qui est un pays slave s'il en est, puisque Bucovine, ça signifie dans la langue slave le pays des êtres. Il disait donc que la Roumanie, la Bucovine plutôt, était un pays où vivaient des hommes et des livres. C'est étrange comme formule. Alors, est-ce qu'il y aurait donc finalement dans ce pays, la Bucovine et la Roumanie d'une façon plus large, un rapport qui soit presque intime, presque charnel avec le livre? Quelle est votre vision de ce rapport entre la Roumanie et le livre, avec le regard à la fois proche et distant qui est le vôtre aujourd'hui sur ce pays?
À propos de Paul Celan, je voudrais dire quelque chose de très simple. Ce n'est pas un poète roumain, c'est un poète d'origine roumaine, de langue allemande. Et je me bats toujours à Bucarest avec cette question, puisque à l'heure actuelle, on voudrait donner Paul Celan comme un poète roumain, ce qui n'est pas vrai. Il a écrit 14 poèmes en roumain. Et malheureusement, pour la Roumanie, la Bucovine est devenue roumaine à l'époque des années 40. Et Paul Celan étant... La Bucovine était occupée par la Roumanie et née à Tchernovitz, Tchernahoutz en roumain, forte communauté d'origine juive dont Paul Celan faisait partie. Ses parents ont été déportés, exterminés par le régime Antonescu. Plus de 200 000 juifs ont été déportés à cette époque-là. Donc le livre La Bucovine n'est pas spécialement roumaine, elle était plutôt d'origine, à l'époque, je vais dire une bêtise, on dit d'Ukraine aujourd'hui, et elle est en Ukraine, Tchernovitz est redevenue en Ukraine. Donc si vous voulez, je voulais préciser ça parce que c'est important pour l'histoire de ce qu'on appelle la Roumanie. Pour en revenir au livre et la Roumanie, ce qui m'a aussi tenté là-bas, quand je suis arrivé, et après quelques mois de pérégrination dans la ville et chez les gens, j'ai pas vu une seule maison sans bibliothèque.
Ah oui.
Tout appartement, pourtant dans la pauvreté pour souvent, toujours des livres quelque part, quels qu'ils soient. Donc, si vous voulez, ça aussi, le livre avait une valeur de liberté. À l'époque de Ceausescu, puisque c'était aussi à ce moment-là que ça se passait, les seules choses que les gens pouvaient acheter, c'était des livres. Il n'y avait rien d'autre. Donc, effectivement, le livre était en proportion à devoir des tirages faramineux pour certains titres. Mais je crois que le monde roumain a cette, non pas comme défense, mais comme atout. Et peut-être c'est lié à la francophonie aussi, et à la langue, cet amour du livre, cet amour de la lecture. Et aujourd'hui, on vit une société qui se développe, qui est en voie de développement sur une forme de monde capitaliste, mais le livre reste toujours important, se bat contre le reste aussi, puisque maintenant il y a de tout, comme ici, et reste un objet très cherché et très apprécié.
Merci. Eh bien, nous allons faire, comme il est d'usage, une petite pause dans cette émission. Et j'invite nos auditeurs à nous retrouver dans quelques instants.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Rénac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Bien, chers auditeurs, bienvenue de retour dans l'émission Au fil des pages. Nous sommes toujours avec Samuel Tastet, éditeur français installé en Roumanie depuis plusieurs années. Et nous allons poursuivre cette conversation en parlant maintenant, si vous le voulez bien, Samuel Tastet, de la langue française. Non pas la francophonie, je précise bien. En tout cas, pas au sens institutionnel du terme. Mais simplement à la langue, la belle langue, la nôtre. Et une langue que la Roumanie, semble-t-il, a aussi un petit peu fait sienne. Si l'on en croit, en tout cas, par exemple, la revue littéraire Plurale de l'Institut culturel roumain, qui a publié récemment un très épais numéro spécial en français intitulé « L'autre langue nôtre, le français chez les Roumains ». Et ça, c'était à l'occasion du sommet de la francophonie à Bucarest, il y a quelque temps. Et dans ce numéro spécial, Erwin Kessler, qui est le rédacteur en chef de ce numéro spécial, évoque l'influence du français en Roumanie en rappelant une chose qui m'a frappé. Curieusement, le français a pénétré la Roumanie, et en réalité d'abord d'ailleurs la Valachie et la Moldavie, non pas par la volonté des Roumains eux-mêmes, mais par celle de la puissance occupante, en l'occurrence à l'époque l'Empire ottoman, et surtout de sa composante phanariote, vous savez, ces fameux traducteurs grecs venus du quartier du Phanar à Constantinople. Et les occupants russes aussi ont également eu recours au français, paradoxalement, comme langue de communication avec leurs protégés, entre guillemets, roumains. Donc ça veut dire qu'historiquement, le contact des Roumains avec la langue française semble, je dis bien semble, et vous allez peut-être dire autre chose, semble leur avoir été imposé un peu par le haut, et n'est donc pas forcément le résultat d'une adhésion, je dirais, par la proximité latine. L'influence du français semble aussi également variable en fonction des régions. La Transylvanie et la Bucovine, par exemple, la Bucovine, n'ont apparemment pas reçu cet héritage-là. On peut cependant imaginer que la francité roumaine, si j'ose m'exprimer ainsi, s'est par la suite, peu à peu, installée dans les esprits, du moins ceux d'une certaine élite, je suppose, d'une façon relativement naturelle. Alors, Samuel Tastet, parlez-nous donc un peu de cette relation, peut-être finalement un peu ambiguë a priori, entre le français et la Roumanie. Quelle est votre perception à partir de votre propre expérience quotidienne dans ce pays ?
Brutalement, je vais vous dire que la Roumanie a une admiration pour la France.
Pour la France ?
Oui, donc pour la langue française. La France, langue française, obligatoire. Puisque la nation, enfin une nation, c'est une langue. Enfin, je veux dire, sinon, aujourd'hui, moi, ça fait presque 20 ans bientôt que je serai là-bas. Ce que j'ai constaté, c'est que, comme vous avez très bien dit tout à l'heure, enfin à l'instant, la Moldavie et la Valachie sont les deux endroits encore où la langue française a un attrait, a une force. Le reste du pays. La Transylvanie, le bord de la mer Noire, près de la Serbie aussi, n'est pas spécialement francophone ou de langue française. Ce que dit M. Kessler dans cette revue Plurale, qui est très bien faite, d'ailleurs, il faut saluer l'Institut culturel roumain, là, qui fait un effort depuis 2 ans extraordinaire, qui fait faire connaître aussi des auteurs roumains en France et ailleurs. Ce qu'il dit est certainement juste, je n'ai pas ces données historiques personnelles. Je dis que aujourd'hui et depuis le début, fin 19e, début 20e, la langue est aussi passée par la littérature. Et nous avons un cas exceptionnel que je vais republier bientôt, dont je vais republier les 6 volumes, La recherche du temps perdu de Proust, où les rapports entre la Roumanie et la France étaient énormes, et c'était aussi des rapports diplomatiques. Il ne faut pas oublier, des rapports d'affaires. Il y a eu beaucoup d'affaires entre la Roumanie et la France. Des traités politiques aussi, après la Première Guerre mondiale. La langue française, d'ailleurs, était la langue de diplomatie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la langue française, elle se trouve bien menée et malmenée. Malmenée parce que, je n'invente rien et tout le monde le sait, pour qui a voyagé un peu dans ces pays-là, la langue anglaise prend le dessus puisque c'est la langue du commerce, c'est la langue de l'évasion du pays, si vous voulez. Et la langue française est considérée, et ça c'est un petit peu dommage, mais en même temps c'est pas mal, est considérée comme une langue de culture, une langue avec laquelle on apprend tout.
Logique.
Oui, mais en même temps, je dis, on va se retrouver dans la langue française va se retrouver dans une sorte de petit ghetto, comme cela, mais ce petit ghetto risque d'être très profitable, parce que finalement, on approfondit la langue. Et je peux vous dire que les gens, les jeunes aujourd'hui que je connais, qui connaissent et qui aiment la langue française, la connaissent très très bien et l'approfondissent énormément. Alors que tout le monde pense parler anglais et personne ne parle vraiment anglais. Tout le monde parle 300 mots, 400 mots d'anglais, peut-être, et même parfois moins, simplement pour pouvoir échanger et communiquer des choses dans le monde des affaires. Mais concernant ce qu'on appelle la culture, puisqu'il faut employer ce mot-là, la langue française est en train de prendre une place prépondérante, et ça va, je pense, avec le temps, si aussi on continue à promouvoir la littérature française dans ces pays-là, comme la Roumanie, ça va prendre des proportions beaucoup plus importantes. Je crois qu'il y aura une question de dizaines d'années, au pluriel, qui s'impose pour pouvoir, comment dirais-je, asseoir correctement cette enclave de la langue française en Roumanie. Je suppose que dans les autres pays, comme la Pologne, principalement, peut-être pas la Tchéquie ou la Hongrie, qui sont beaucoup plus d'influence germanique ou allemande, la langue française aura moins d'attrait. Mais je connais en Hongrie, par exemple, un grand nombre de personnes qui adorent parler français et qui continuent à publier même des petites revues en français. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est bien. Il y a un pas, il y a eu un recul depuis une dizaine d'années, et en même temps, ça avance d'une manière plus approfondie. Et je pense que ça, c'est quand même une bonne note pour la langue française.
C'est important, ce message que vous venez de faire passer, là, vous savez. C'est un message qui mérite d'être écouté dans le monde, comme Canal Academy, d'ailleurs, puisque Canal Academy est écouté partout dans le monde. Mais en tout cas, ça, c'est important de le dire. Alors maintenant, l'Europe. La Roumanie est entrée en Europe. Est entrée dans une Europe dont on fête cette année le cinquantenaire. C'est jeune, hein ? Quelle jeunesse ! Alors, Samuel Tastet, à partir de votre position, je dis bien de votre position de Roumain d'adoption, comment est-ce que vous voyez l'apport de la Roumanie à l'Europe ? Autrement dit, qu'est-ce que la Roumanie peut en profondeur, je dis bien en profondeur, apporter à l'Europe, lui donner. J'ai évoqué en introduction à cet entretien le portrait en triptyque de la Roumanie telle que je l'imagine personnellement, mais c'est un point de vue personnel qui ne reprend pas tous les caractères de la Roumanie. Mais il y a quand même, notamment dans ce portrait en triptyque, la capacité de résistance non violente, l'héritage orthodoxe et monachique, qu'elle partage d'ailleurs largement avec sa voisine bulgare, qui est rentrée également en Europe avec elle. La voisine bulgare, la Bulgarie, très fortement marquée elle aussi par la période de l'occupation ottomane. Et ça se voit encore quand on va à Sofia. Et puis, par ailleurs, la Roumanie a cette expérience de la dictature communiste, qui l'a obligé pratiquement encore une autre forme de résistance non violente. Tout ça, ça forge un caractère. Ça forge un caractère qui est peut-être d'ailleurs le caractère essentiel de la plupart des nouveaux États membres venus de l'Est, et dont l'Europe actuelle a besoin. On a besoin de cet esprit de résistance qui nous manque. Mais il y a aussi, il faut le dire quand même, les changements de mentalité intervenus après la chute du mur de Berlin. Disons, pour faire court, cette espèce de fascination pour les fausses libertés marchandes qui peut, en quelque sorte, dévoyer un peu l'élan européen. Alors, Samuel Tastet, comment est-ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui, l'esprit roumain ? Quelques semaines seulement après l'adhésion, je vous en prie.
C'est pas simple. Je ne veux pas vous dire. Non, mais je risque peut-être de dire des choses qui vont fâcher. Mais pour revenir à l'esprit de résistance, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Qu'est-ce que la Roumanie peut apporter à l'Europe ? Elle va apporter sa culture qui n'est pas connue ici. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, en Roumanie, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a. Je ne veux pas parler de politique, je veux parler des faits. Il y a un président de la République qui s'appelle Basescu, qui a le courage de faire certaines choses qui dérangent énormément. Parce qu'on s'aperçoit que, à peu près jusqu'à encore aujourd'hui, et ça va durer encore un certain temps, tous les anciens du régime communiste sont en place. Donc s'ils sont en place, ça veut dire que ça continue d'une certaine manière. Alors, c'est un pays qui va traverser des crises politiques, et dans l'immédiat, ça ne va pas aider énormément, entre guillemets, l'Europe, ce genre de choses, à mon avis. Ce qui va l'aider peut-être, c'est de donner une image d'un combat, c'est-à-dire de combattre un ancien régime qui a détruit, comme je disais tout à l'heure, Bucarest avec son âme dévastée, son âme assassinée, c'était le terme plus exact que j'avais dit. Là, ça va peut-être donner un exemple, qu'il faut aussi résister, qu'il faut savoir, par moments, non pas faire des concessions, parce que ça, c'est absolument impossible, c'est inutile à l'esprit de résistance, mais qu'il faut savoir sacrifier parfois quelque chose pour arriver à dépasser des événements difficiles. Les Roumains ont su le faire, ça je pense, oui. C'est vrai, je ne peux pas me permettre
non,
de dire...
Non, pas du combat proprement dit, c'est la résistance non-violente.
Oui, mais cette résistance non-violente, elle est parfois douée d'une certaine forme de lâcheté. Et ça, c'est difficile à accepter. Je veux dire, en Roumanie, moi je sais que peu de gens ont résisté réellement. Et ceci dit, je ne juge pas les gens qui n'ont pas résisté. Parce que ce n'est pas simple de résister. Surtout à une période où vous pouvez être menacé dans votre propre famille, vous pouvez être menacé, on peut menacer vos enfants, on peut menacer n'importe qui. Donc il n'est pas simple non plus. Donc il n'y a pas de jugement de ma part là-dessus. Il y a simplement une constatation qui a une certaine forme, je dirais, oui, c'est doué d'une forme de lâcheté, cette résistance. C'est assez étonnant.
Lâcheté résistante.
Oui, c'est assez étonnant.
Curieux.
Oui, c'est assez étonnant. Et je n'ai jamais vu ça ailleurs. En même temps, il y a un grave problème en Roumanie, c'est qu'il y a, je dirais, de ce côté-là, un côté d'envieux, ce qu'on appelle invidier. Et l'envie en Roumanie est terrifiante, parce qu'il y a l'histoire du paysan qui a tout perdu et qui demanderait à Dieu d'aller tuer la chèvre de son voisin. C'est assez terrible. Donc, vous voyez, la résistance, elle est quand même un peu spéciale.
Mais voilà qu'il n'est pas de la langue de bois, en tout cas. Et c'est une image que vous venez de nous présenter qui n'est pas courante quand on parle de la Roumanie. Et je dois dire que c'est également intéressant d'entendre ce que vous venez de dire. Et peut-être est-ce que c'est une bonne transition vers la fin de notre émission, puisque nous approchons de la fin de notre émission. Et parce que ce que vous venez de dire est un petit peu pessimiste quand même. Il y a un côté un petit peu pessimiste malgré tout. Disons que, bon, la résistance reste là. Mais enfin, bon. Et vous allez maintenant nous lire un poème roumain. En roumain. Alors, en quelque sorte, là, je voudrais... m'adresser aux auditeurs et leur dire que c'est un peu une invitation au voyage en Roumanie qu'on va leur faire dans la langue roumaine, qu'on va leur faire à travers cette lecture, qui n'est pas, pour ceux qui comprennent le roumain, quelque chose de particulièrement gai, particulièrement optimiste, mais qui est très, à mon avis, d'après tout ce que vous venez de nous dire, très représentatif de l'esprit roumain. Alors, il s'agit d'un poème de Mariana Marin, que vous avez publié. Et peut-être en deux mots, avant de passer à la lecture, vous pouvez nous dire très rapidement ce qu'elle évoque pour vous et les raisons pour lesquelles vous avez choisi, parce que vous avez choisi ce poème comme témoignage de votre séjour roumain, rapidement.
Très rapidement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa disparition il y a 3 ans. Et c'est à cause de ses poèmes, son écriture, que je suis allé en Roumanie. Donc c'est une sorte d'hommage que je lui fais. Poets pictor prosator. Cel mai frumos poem de dragost al lume. Sentimentul catotul balest, car tu spune. Stam ai doma catofilor incolsits al pictorului Ion Dumitriu. Ingechuit in atelier, victime al acelaj bol, așteptând să fim contemplats, de ocul expert al realitats, de buzuna rele ei doldora. Aidom alor, bacovien de sigur, poets, pictor, prosator. Consins amortis pe alocuri, al colistimis in singurats, si totuși atot de apropie,
incunt amputa aus cum vibres prin aer, vitor pagines scris, si ars, ultima color subta de pinze. Sentimentul ca totul amorit, si sentem paralizats, ca au apparut in suflet scursurile si ciobolan, ca suparam fix si arnic deodata, ca nici grefat totul direct pe subconscient, direct pe nervul optic. S-a țifi frica de cuvântul poet, îmi strig, mai de mult instinctele mele primar. El este un fel de domiciliu forțat. Din el nu te mai poți întoarce niciodată între oameni. Sentimentul ca totul baltește, chiar tu o spuneai. Și m-ai încetat brusc să ne iubim, pentru ca totul, chiar totul, nu era impotriva. Supuron fix, direct pe subconscient.
Eh bien voilà un bel hommage non seulement à Mariana Marine, mais également un bel hommage à la langue roumaine. Et cet hommage-là est aussi nécessaire pour la langue française, la défense de la langue française, ce qu'on appelle la défense de la langue française, la promotion de la langue française, passe par l'appui, la promotion des autres langues européennes aussi. Car le destin de l'Europe, c'est la multiplicité de ses cultures et de ses langues.
Je voudrais dire une dernière chose, si c'est possible, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas du tout pessimiste. J'ai dit ce que j'ai vécu et je reste en Roumanie parce que j'ai rencontré des êtres absolument extraordinaires et merveilleux. Et ça, c'est très important pour un pays.
Il existe aussi des pessimismes actifs qui se transforme en optimisme. Ça arrive. Et c'est d'ailleurs le cas de ce genre d'attitude. Samuel Tastet, merci beaucoup et merci d'avoir accompagné nos auditeurs dans ce beau voyage, un peu court, mais beau voyage en Roumanie. Merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie.